de route.
RVE, bonne matinée. Il est 10h.
Le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour, bonjour à tous. La rétrospective de l'actualité nationale de la semaine, dominée bien sûr par l'élection présidentielle. Les Français se passionnent pour l'élection présidentielle. 9,8 millions de Français ont suivi le premier débat électoral entre 5 candidats lundi soir dernier sur TF1. Les candidats qui ont publié leur patrimoine, c'est obligatoire. On apprend que François Fillon n'est pas forcément le plus riche. Jean-Luc Mélenchon a un patrimoine supérieur à lui, par exemple 1 million d'euros, tandis que François Fillon, c'est 925 000. Pas très loin derrière, Benoît Hamon, 821 000. Tandis que le plus riche est Nicolas Dupont-Aignan, 2,3 millions d'euros de patrimoine immobilier. Lundi soir, lors du débat télévisé, les candidats ont pu parler programme, enfin. Tout est resté assez calme et courtois. Mais cela dit, ce sont toujours bien les affaires qui prennent le dessus sur cette campagne électorale présidentielle 2017. Et cette semaine, les affaires ont un peu changé de camp, avec le ministre de l'Intérieur qui a été mis à la porte parce que il a employé ses deux filles comme assistantes parlementaires quand il était député à l'Assemblée nationale. Il les employait alors qu'elles étaient lycéennes et étudiantes. 24 CDD pour ces deux filles. Alors évidemment, on se pose la question de la réalité de leur travail. D'ailleurs, le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire. On soupçonne que ces emplois étaient fictifs. Bruno Leroux assure que non. Mais l'affaire a été rondement menée. En 24 heures, il avait démissionné. Et puis, qui n'a pas eu son costume offert par un ami? L'ancien ministre socialiste et aujourd'hui commissaire européen, Pierre Moscovici, lui aussi s'est fait offrir des costumes de luxe par un ami chez le même tailleur parisien que François Fillon. C'est ce qu'a révélé cette semaine le Cadran enchaîné. Pour Pierre Moscovici, aucun problème. Je ne suis pas du tout embarrassé. Ce sont de vrais cadeaux par de vrais amis. On a aussi appris cette semaine dans un livre à paraître, Bienvenue Place Beauvau Police, les secrets inavouables d'un quinquennat, que François Hollande a mis en place un système de surveillance de ses concurrents à la présidentielle pour les faire chuter. Pendant près d'un an, la police judiciaire a espionné les conversations de Nicolas Sarkozy. C'est ce qu'affirme ce livre. Et il y a eu une orchestration des affaires judiciaires. L'Élysée qui aurait aussi fait fuiter les conditions de financement de l'orchestre de la femme de Manuel Valls, Anne Gravoin, pour le mettre en difficulté, pour mettre son propre Premier ministre en difficulté. Il aurait aussi fait fuiter dans la presse la rumeur d'une liaison entre Manuel Valls et Najat Vallaud-Belkacem. Emmanuel Macron, de son côté, commence à engranger les ralliements bankable, comme celui de Jean-Yves Le Drian, le populaire ministre de la Défense. Il avait eu un peu plus tôt dans la semaine le ralliement du secrétaire d'État au sport Thierry Braillard et de la secrétaire d'État Barbara Pompili, tandis que le conseiller spécial de François Hollande, Bernard Poignant, s'est aussi rallié à lui. Dans notre vie quotidienne, plusieurs changements sont intervenus cette semaine. Par exemple, le casque obligatoire désormais pour les enfants à vélo. Songez-y, si ce week-end vous allez vous promener en vélo avec vos enfants, un enfant de moins de 12 ans sans casque à vélo, ce sera une amende de 90 euros. Voilà pour cette rétrospective. Merci de nous avoir choisis.
La météo de votre région sur RVE.
La météo pour ce dimanche, eh bien, c'est une météo assez ensoleillée avec quelques passages nuageux. Des températures actuellement entre 8 et 9 degrés. Dans l'après-midi, malgré quelques passages nuageux, on devrait avoir quand même une dominante soleil avec des températures qui atteindront les 15 à 16 degrés.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport avec Philippe Carnu.
Eh oui, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le dimanche 26 mars, il est bien 10h et 4 minutes, nous sommes revenus à l'heure d'été et on était passé donc au printemps il y a quelques jours. Alors qui dit heure d'été et dit printemps, bah dit rentrée des courses à l'hippodrome de Rambouillet. Donc je vais saluer celui qui va m'accompagner dans cette émission ce matin, c'est mon ami Boris. Bonjour Boris, ça va ?
Oui, c'est très bien Philippe.
Rentrée des courses avec donc le printemps et puis l'heure d'été.
Extra, je crois que c'est des 10 dernières années, une des premières fois qu'on va démarrer la saison avec un temps absolument magnifique. Mmh. J'ose espérer que la piste ne sera pas trop grasse, mais a priori, je pense que les équipes du service de l'hippodrome auront fait tout et en sorte pour qu'on passe une belle après-midi sur l'hippodrome de Rambouillet, l'hippodrome de la Villeneuve.
D'accord, alors on va reprendre les bonnes les habitudes, hein, on aura des pronos tout au long de cette saison concernant les courses à l'hippodrome. Et puis alors aujourd'hui, en plus, il y a une particularité, c'est que cette première sur Rambouillet, il y a aussi le prix RVE qui y figure. Ça fait quelques saisons que eh bien notre course donc figure dans cette dans cette réunion de rentrée, pardon.
Oui, tout à fait. On sera associé dans la 7e course aux alentours de 17h au prix Radio Vieille Église, hein, notre radio. Ça sera une course E pour apprenti la jockey avec une allocation globale de 18 000 euros sur les 2800 mètres de la piste. Un joli lot, bien composé. Et petite particularité, ça sera une course pour apprenti la jockey. Donc on donnera place aux jeunes drivers, aux jeunes jockeys, avec un bon lot de chevaux pour n'ayant pas gagné 100 000 euros. Donc ça commence à causer pour des 6 ans, c'est plutôt bien.
Voilà, alors l'hippisme va se partager avec une jeune consoeur qu'on va voir tout à l'heure au téléphone, c'est Mathilde Lazou, c'est une jeune consoeur de France Télévisions qu'on a eu l'occasion de rencontrer sur la route du Paris-Nice, et comme elle débute un peu dans ce métier, on voulait en savoir un peu plus sur son quotidien, sur son regard de femme dans le domaine du sport, et notamment sur des sports qu'elle connaît bien comme le vélo ou le ballon ovale. Alors tout de suite, on va quand même auparavant, Boris, rappelez les dates des courses à l'hippodrome de Rambouillet. Ça va commencer donc aujourd'hui. On aura les pronos dans la deuxième partie de cette émission. Ça va commencer donc aujourd'hui, le 26 mars. Ensuite, on aura le dimanche 23 avril, le 7 mai, le 21 mai, ça sera la grande réunion Pronium, le 4 juin, le 25 juin, et puis on partira donc en vacances et on retrouvera les trois dernières réunions à la rentrée, le 3 septembre, le 10 septembre et le dimanche 1er octobre. Je crois qu'on a Mathilde au téléphone, donc on va enchaîner avec Mathilde, et puis à ce moment-là, on reviendra sur les courses à l'hippodrome de Rambouillet. Mathilde Lazou, bonjour.
Bonjour.
Alors Mathilde, comment ça va? Vous êtes en week-end en Bretagne, c'est assez rare hein, quand on est reporter sportive hein, d'avoir des petits week-ends comme ça.
C'est ça, c'est vrai que c'est un peu étonnant, mais bon, je vais profiter de ces quelques jours de repos pour aller quand même sur une course de vélo en Bretagne.
Ah, quand même.
Pas les habitudes.
Quand même. Alors Mathilde, bon, pour tout dire, hein, on s'est rencontrés sur la route de Paris-Nice, hein, on a eu l'occasion de converser un peu, et puis j'ai dit, tiens, il faut venir parler un peu de son quotidien. L'entrée dans le journalisme, ça date de quand? Je crois que ça date de 2010, hein, sur l'opération Jeune Reporter sur le Tour.
Oui, c'est ça. J'avais 14 ans, j'étais lycéenne, je faisais encore 1m50, et j'ai eu la chance de faire le Tour de France en tant que jeune reporter, avec 5 autres jeunes adolescents comme moi, et on a eu la chance, oui, de faire cette belle expérience en créant notre journal qui paraissait tous les deux jours sur la route du Tour de France.
Oui, ça se passe comment? On postule pour être jeune reporter sur le Tour à 14 ans?
C'est ça. Avant, c'était un concours. Maintenant, malheureusement, il n'existe plus. Mais oui, il fallait envoyer un article à ASO ainsi qu'une lettre de motivation. Et ensuite, on était présélectionnés et on devait passer une série de tests dans l'antre d'Amaury Sport à Paris. Et enfin, il y avait 6 sélectionnés.
D'accord. Qu'est-ce qui vous plaisait? C'était le côté journalistique? C'était plutôt le Tour de France ou c'était un peu de tout?
C'est un peu des deux. Oui. Je suis issue d'une famille de cyclistes, oui. Donc forcément le Tour de France, c'est un peu une institution.
Ah bah,
mais
c'est mythique,
le journalisme m'a toujours intéressée également. Donc c'était l'occasion de combiner les deux passions et voir un peu ce que ça donnait, si ça me plaisait vraiment.
Donc chaque jour il y avait un article qui sortait donc pendant ce Tour 2010.
C'est ça, tous les deux jours on publiait un journal sur papier qui était imprimé en 1000 éditions et on devait également aller le distribuer aux coureurs, aux directeurs sportifs, aux autres journalistes, aux membres de la caravane. Il y a beaucoup beaucoup de monde sur le tour et c'est une grande famille, donc c'était une expérience géniale à faire, on va dire. Pour commencer dans ce métier, je pense que je pouvais pas rêver mieux.
Oui, et quelle a été la réaction donc d'une façon générale sur cette route du tour en 2010? Toujours des bons écueils au niveau notamment des coureurs?
Oui, très très bon. Je me souviens que j'avais causé un fou rire en conférence de presse de l'équipe Saxo Bank. À l'époque, Elle s'appelait comme ça. C'était avec les frères Schleck et ils m'avaient entendu parler en anglais. J'avais encore une voix très très fluette à l'époque et ils étaient morts de rire. Mais c'était le ressentiment général de ce tour. C'est qu'on est tout petit, donc forcément, ils veulent nous montrer et plus nous aider que nous casser dans notre élan, donc forcément on a beaucoup appris et on a été très très bien reçus pendant ce tour, donc forcément quand ça se passe comme ça, on espère que ça se passe comme ça pendant toute une carrière.
Oui, c'est vrai que ça doit faire drôle quand même, hein, voir un petit bout de chou de 14 ans en conférence de presse intervenir.
Oui, j'étais un peu surpris, mais après du coup je suis devenue pour eux la fille à la question, donc c'était assez drôle, ouais.
Alors bon, il y a cette aventure donc du Tour 2010 hein, qui, soit dit en passant, nous laisse un petit goût d'inachevé parce que c'est le tour où Contador avait été donc destitué de son titre, ça avait un peu gâché la fête, mais ça vous a vraiment donné l'envie ensuite d'aller plus loin dans le métier.
Oui, c'est exactement ça. J'allais entrer en première L avant de faire le Tour de France et c'est vrai que ça m'a vraiment décidé à devenir journaliste parce que c'est un rythme, ce sont des émotions qu'on vit qui sont très très fortes. On est témoin quand même, on est au plus près de l'action, on est témoin d'un événement exceptionnel tout simplement et je voulais en vivre tous les ans de ces Tours de France, de ces Roland-Garros. Voilà, ce sont des événements qui font rêver et j'ai de la chance de. Je pense que dans notre métier, on a de la chance de pouvoir être au plus près pour assister et témoigner de ce qu'on voit.
C'est vrai que sur l'instant, on n'en aperçoit pas parce qu'on est pris dedans, mais après, avec le recul du temps, on se dit quand même que je suis un sacré privilégié ou une sacrée privilégiée.
C'est exactement ça, ouais, qu'on puisse dire après aux membres de notre famille ou à nos amis, dire qu'on était là, qu'on était à ce moment-là, et c'est marrant. Enfin, vous parlez de Contador ce jour-là, oui. Par exemple, le jour où il a été contrôlé positif, j'avais passé la journée avec Astana, justement, avec son équipe, et j'avais été la seule à pouvoir rester plus longtemps que le quart d'heure qui était normalement réservé à la presse, parce que j'étais une enfant de 14 ans.
Eh oui, c'est ça.
C'est marrant là, de se dire on était là. C'est une chance.
Bien sûr. Alors donc, après vous faites l'école de journalisme classique, traditionnel, hein, comme c'est maintenant le cas pour pratiquement tous les jeunes journalistes.
C'est exactement ça. J'ai eu mon bac à 16 ans, donc je voulais une école, comme vous dites, il faut quand même rentrer dans une école qui fait partie des 14 reconnues par la profession, si l'on veut avoir des stages plus facilement. Du coup, j'ai tenté seulement celle de Lannion, et ils m'ont prise, donc c'est en Bretagne, moi ça... Ça me permettait d'être pas trop loin de mes parents quand même, vu que j'étais pas majeure, j'étais quand même un petit peu jeune encore à l'époque, un peu tendre on va dire. Mais ça a été une bonne formation qui a duré 3 ans jusque la licence et on apprend vraiment les bases du métier et dans tous les domaines, que ce soit pour la télé, la radio, la presse écrite ou le web. Et c'est une chance encore une fois d'avoir pu être bien formée.
Oui, parce qu'il faut quand même rappeler pour tous ceux et toutes celles qui veulent s'orienter vers ce métier que c'est pratiquement fini l'époque révolue où on allait taper aux portes, on nous prenait comme pigistes et puis on laissait le temps faire après.
C'est ça, c'est exactement ça. Quand on discute avec des journalistes, souvent ils ont des parcours totalement différents. Il y en a qui étaient professeurs avant, il y en a qui étaient juste passionnés de sport. Ce sont des histoires incroyables à raconter, mais malheureusement maintenant il y a tellement de concurrence et de gens qui veulent faire journaliste dans ce milieu ou dans le sport que oui, il vaut mieux passer par une bonne école qui a un bon réseau et qui peut nous aider et qui rien que dans le CV déjà les gens vont ça va les pousser à continuer à lire le reste de notre CV, je pense.
Alors ensuite Mathilde, c'est l'entrée à France Télévisions. Ça s'est fait comment cette entrée, tout naturellement? France Télé est venue vous chercher parmi cette école qui était reconnue par la profession?
Alors en fait, pour ma troisième et dernière année d'études, je devais faire 3 mois de stage là où je voulais en fait. Et j'avais fait l'équipe l'année d'avant et le Télérama des sports l'année encore d'avant. Donc je me suis dit, pourquoi pas tenter France TV Sport. Comme ça, j'avais un aperçu global de la situation. Et donc j'ai fait mes 3 mois de stage chez eux. Donc le stage s'est terminé en février 2015. Et en fait, ils m'ont tout de suite proposé de faire le Tour de France en juillet 2015 avec eux. J'ai fini mes études un mois plus tôt, donc moi ça me dérangeait pas et finalement ils m'ont gardé et depuis je suis pigiste pour eux, ça veut dire que j'ai un contrat tous les mois avec des dates de travail, mais ça me va, c'est une chance, c'est vrai que comme quoi les stages ça peut marcher et ça peut donner du travail. Hein.
Bien sûr. Alors qu'est-ce que vous faites principalement à France Télévisions? Je crois que vous travaillez beaucoup sur le site internet. Hein.
C'est ça, je me revendique un peu électron libre, c'est-à-dire que je peux écrire des articles pour le site, je peux également être amenée à devoir gérer les réseaux sociaux de France TV Sport, que ce soit Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram ou encore les stories Instagram. Je peux également faire des vidéos, on est amené des fois à faire des web-séries, notamment avec l'équipe cycliste Cofidis en ce moment, on est en train de tourner la saison 2, donc voilà, ce sont des tâches complètement différentes, mais qui moi me plaisent et me poussent à aller au travail tout le temps.
Et un peu d'antenne, non? Même en off?
Alors ça m'est arrivé au JO, donc
oui.
C'était assez drôle, c'était une première, mais après... Oui, bon, ce serait le but peut-être de finir à l'antenne. J'essaie de prendre mon temps et de petit à petit, oui, essayer de tendre vers ça.
Enfin, quand on commence dans le métier, qu'on fait le Tour de France, Roland Garros ou bien les Jeux, ça fait rêver, hein.
Ben, j'en ai pas trop conscience. J'essaye de l'occulter de ma tête et puis de me concentrer sur le futur. Mais c'est vrai que je pense que dans 10 ans, je me rendrai compte de ce que j'ai fait, parce que c'est vrai que j'ai eu la chance d'aller partout l'an dernier ou ces dernières années. Et il faudra du temps, je pense, avant de me rendre compte de ce que j'ai fait. Je suis toujours pas regardé mes photos de Rio. J'ai toujours pas assimilé le fait que je les avais fait. Mais bon, c'est marrant.
Oui, parce que vous êtes photographe aussi. J'ai lu que vous êtes aussi photographe sportif.
C'est ça, je suis photographe indépendante. Ouais. Je tiens difficilement en place et du coup, il fallait une autre activité encore pour vraiment me fatiguer et aller sur les courses. Moi, ce qui me plaît, c'est d'être dehors, et quelle que soit la tâche que je fasse dans une épreuve sportive, ce qui me plaît, c'est d'être au contact des sportifs et de pouvoir témoigner de ce que je vois, que ce soit à travers un article ou justement une photo.
Oui, donc ça veut dire qu'un jour, ça peut même carrément bifurquer vers la photo complètement ? C'est possible ?
Ah ben, c'est ça, oui, c'est possible. Oui. Là, je dirais que c'est partagé à 60-40% pour le journalisme et 40% pour la photo, mais ça pourrait bifurquer.
C'est assez original quand même, c'est bien. Un multimédia complet, hein.
Ah oui, il faut bien s'occuper. Hein.
Comment se fait les choix des reportages ? C'est-à-dire, c'est vous qui vous proposez pour aller sur le tour sur Roland-Garros, ou on vous dit non, tiens, tu vas accompagner l'équipe qui est sur Roland-Garros ou sur le Tour de France ou sur les Jeux ?
Alors, normalement, oui, il faut être candidat, candidat pour ce genre d'événement et amener au chef une sorte de lettre ou une sorte de projet en disant vraiment ce qu'on compte faire et pourquoi est-ce qu'il faut nous prendre. Et encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance parce que je n'ai jamais eu à me proposer pour quoi que ce soit. En fait, on m'a toujours dit ça te dit pas de venir faire le tour, ça te dit pas de venir faire les jeux. Et bon, bah, j'avais qu'à dire oui ou non, mais en l'occurrence, je me voyais pas trop dire non. Donc, Donc j'ai continué et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance qu'on me propose ça.
Oui. Donc là maintenant, c'est quoi la suite de la saison ? Bon, il y a eu le Paris-Nice, il y a le Tour de France dans quelques mois, mais auparavant il y a Roland-Garros, il y a aussi Paris-Roubaix. Vous allez suivre tous ces événements ?
Globalement plusieurs, oui. C'est vrai que là je vais pas faire Paris-Roubaix par exemple, mais je vais aller à la reconnaissance avec Cofidis pour la web-série. Après il y a Roland-Garros, il y aura les championnats de France de cyclisme à Saint-Omer dans le Nord. Avant le Tour de France, bien évidemment. Et puis, il y a d'autres événements comme le Tour de Sharjah près de Dubaï que je vais aller couvrir également en tant que photographe. Et puis, il y a les courses bretonnes que j'ai toujours beaucoup de plaisir à aller voir, que ce soit au niveau professionnel ou amateur. J'aime bouger et on va dire que mes week-ends, là, vont être très, très occupés avant le Tour de France.
C'est pour ça, profitez bien de ce petit week-end de repos.
C'est exactement ça.
Alors, Mathilde, bon, c'est vrai que on l'a perçu hein, dans ce début de l'interview, votre sport de prédilection c'est le vélo, mais quand on est journaliste sportif et sportive, on n'a pas véritablement de sport de prédilection, on doit aimer et s'intéresser à tous les sports.
Oui, c'est exactement ça, il vaut mieux ne pas s'intéresser qu'à un seul sport. On va dire que c'est déjà suffisamment un petit milieu comme ça, le monde du journalisme sportif. Alors si en plus on se spécialise seulement dans un sport, on retrouve toujours les mêmes personnes. Au bout d'un moment, je pense que ça pourrait devenir lassant, alors que l'avantage de ce métier, c'est de pouvoir être complet pour pouvoir couvrir toutes sortes d'événements et puis découvrir d'autres sports, d'autres ambiances, pouvoir être amené à faire des comparaisons et puis être crédible quand on parle de telle ou telle discipline, tout simplement. Donc oui, je pense que c'est très très important d'être tenu au courant de l'actualité et de se forcer à aller voir un peu toutes les disciplines.
Eh ben, la preuve, c'est que la semaine dernière, vous étiez sur ce fameux match du tournoi Destination, hein, ce match de ballon ovale qui a duré 101 minutes.
Oui, c'est ça. C'était rugby, très long, minutes. Mais c'était incroyable, tout simplement. Ouais. On va dire que nous, vu du terrain, on ne se rendait pas trop compte de ce qui se passait. C'était plutôt l'incompréhension de voir autant de mêlées, autant d'arrêts de jeu. Mais c'est vrai qu'avec le recul, on pourra se dire qu'on y était et que... ce qui était à la base un match plutôt moyen des Français est devenu un match simplement historique, donc c'est plutôt beau.
Effectivement, sur le plan du rugby, c'était un match assez moyen, mais bon, il a été historique parce que c'est finalement le match le plus long d'histoire.
C'est ça, tout simplement. Et puis, ils n'avaient pas battu les Gallois depuis 2011. Oui. Ils n'étaient pas remontés sur le podium destination depuis bien longtemps également.
Ouais, 2011.
Donc, on va dire que ces arrêts de jeu nous ont été très, très bénéfiques. Mais c'est ça qu'on retiendra au final.
Alors justement, on va rappeler le classement de ce tournoi 2017. On a fait un petit peu le bilan la semaine dernière avec Christian Rieu, mais on n'avait pas donc rappelé le classement. C'est l'Angleterre qui s'est imposée avec 19 points. Il y a trois équipes qui terminent donc avec le même nombre de points, mais au goal average, c'est l'Irlande qui est deuxième avec 14 points. Troisième, la France, 14 points. Quatrième, l'Écosse, 14 points. Et puis un peu en retrait, donc cinquième, le Pays de Galles, 10 points. Et sixième, l'Italie, une nouvelle fois, cuillère de bois avec 0 points. Vous qui avez vu quelques matchs, vous avez le sentiment qu'on avance un peu dans cette équipe de France, c'est la reconstruction. Bon, c'est vrai que c'est la première fois depuis 2011 que l'équipe de France n'est pas montée sur le podium. On a le sentiment que ça avance quand même très, très, très légèrement. Hein.
Ça avance très, très légèrement, mais ça avance quand même. On a enfin trouvé une charnière, j'ai l'impression, avec Serin et Lopez. Mmh. Après, on essaye des combinaisons. On essaye petit à petit, et même si on n'a pas eu le jeu escompté, on a quand même le résultat au bout. Et c'est même si c'est un peu frustrant, il n'empêche que c'est toujours mieux de finir troisième que cinquième.
Oui, bien sûr.
Mais oui, je pense que l'an prochain, et si jamais ils réussissent à faire leur 40 contrats fédéraux avec les joueurs, bah, ce serait bien aussi. Ça pourrait leur permettre de se concentrer sur les Six Nations au lieu de se concentrer sur le championnat, plus la Coupe d'Europe, plus les Six Nations. Ça, déjà, ça fatiguerait moins les joueurs et on pourrait peut-être en tirer un meilleur profit.
Oui, parce que cette équipe de France, elle joue par moments par bribes. Malheureusement, c'est pas de façon constante. Bon, elle a été battue en Angleterre en faisant paradoxalement un très bon match, même un match qu'elle aurait pas dû perdre. Hein. Ensuite, elle bat l'Écosse. Bon, une équipe écossaise qui physiquement était fatiguée. Elle a perdu contre l'Irlande. Là, il y a pas eu photo. L'Irlande a nettement dominé l'équipe de France dans tous les compartiments du jeu. Contre l'Italie, bon, excepté 20 bonnes minutes italiennes, après physiquement l'équipe de France a pris le dessus. Et puis le Pays de Galles, bah, il y a une bonne entente. Après, c'est devenu beaucoup plus moyen. Et heureusement, il y a cette force mentale pour aller chercher cet essai de la victoire au cours de ce temps additionnel très long.
C'est exactement ça. Et puis, ce qui ressort beaucoup de tous les matchs, c'est que les Français sont très, très bons dans l'engagement. Mm-hmm. Mais dans la finition, ils n'y arrivent pas, tout simplement. Dans les derniers 20 mètres, bah, ils n'y arrivent pas. Ils perdent le ballon. Ils se le font prendre. Enfin, ça a été très, très frustrant de voir ça parce que juste avant, les actions d'avant étaient excellentes et les combinaisons étaient trouvées, tout simplement. Mmh. Mais bon, s'ils arrivent à régler ce problème, je pense que on pourrait voir un meilleur jeu, de toute façon.
Oui, un peu de patience. Tiens, j'ai mon ami Boris qui est avec moi parce que lui va parler des chevaux tout à l'heure. Boris, les propos donc de Mathilde.
Oui, ça corrobore un petit peu ce qu'on a vu. Mm-hmm. Moi, je pense que c'est une vraie chance de terminer le tournoi de cette façon.
Oui.
Je pense que ça va forger le moral des Français. Il leur manquait une étincelle, quelque chose, et on voyait globalement que ça se passait pas au fur et à mesure des matchs. Mm-hmm. Et je trouve que cette fin de match un peu épique, où j'ai pensé, moi, à un moment qu'ils n'allaient jamais passer la ligne, et le fait de l'avoir passé psychologiquement pourra apporter quelque chose, et je pense que c'est le point 1 du démarrage Noves. Enfin, je veux croire en ça. Par contre, on peut quand même remarquer, à l'exception peut-être de l'Italie, que globalement, de l'Écosse à la France, en passant par le Pays de Galles, l'Irlande.
Ouais, toutes les équipes se valaient, pratiquement.
Se valent, hein. Ouais. On va dire que l'Angleterre, à part son dernier match, mais c'était pas facile, était toujours un petit peu au-dessus. Je crois que même c'est la meilleure équipe du monde aujourd'hui. Mm-hmm. Mais, les quatre équipes dont j'ai parlé derrière, globalement, le niveau est très homogène. Mm-hmm. Et des petites équipes, bon, c'est vrai que l'Italie est encore un petit peu à la traîne, mais il y en a plus beaucoup. Et c'est un peu comme dans le foot, hein. On voit le match de l'équipe de France hier. Le Luxembourg, à qui on mettait 7 buts il y a 15 ou 20 ans, aujourd'hui,
on en met 3, plus de 2. Voilà, c'est pas aussi facile.
Donc, je crois que le haut niveau a cette exigence qui fait qu'aujourd'hui, les équipes ont un niveau homogène et ça devient de plus en plus difficile de rayonner.
C'est la même opinion pour Mathilde, hein, Mathilde. Hein. On voit que dans tous les sports, ça progresse.
Ah bah oui, exactement. Je suis tout à fait d'accord. Le haut niveau a tendance à s'homogénéiser pour toutes les nations.
Voilà, donc ça c'était le rugby. Et puis pour le vélo, bah, vous êtes plutôt contente. Le début de saison, il a bien commencé. On voit un beau début de saison. Et Nao qui a gagné donc le Paris-Nice. Hein. On va se rappeler qu'on a eu une étape royale donc en vallée de Chevreuse pour le départ du Paris-Nice. Hein. Étape apocalyptique avec donc notamment des mauvaises conditions météo. C'est Arnaud Demar qui s'est imposé à Bois d'Arcy au sprint en battant le puncher Julien Alaphilippe. Et puis on était dès le lendemain sur Rochefort en Yvelines en direct pour une étape qui a vu Colbelli, l'Italien, s'imposer. On a eu un beau final de Paris-Nice quand même, hein, comme très souvent d'ailleurs.
Oui, c'était une superbe semaine qui a été rendue très difficile dès le départ avec les mauvaises conditions climatiques qui ont entraîné notamment à l'exclusion de Romain Bardet.
Plus,
et c'était intéressant
plus,
de voir comment les Français se plaçaient dans ce bazar, tout simplement. Et, et on a eu encore une fois Alberto Contador attaquant, qui a dynamité la course jusqu'à la fin. Il perd seulement Paris-Nice pour deux petites secondes. Et c'est ce qui rend notre sport beau, je trouve.
Absolument. C'est une belle génération hein, quand même de cyclistes hein, pour les Français. On a quand même des bons coureurs, des bons sprinters, Demar, Bouhanni, Bardet, Pinot, Julien, Alaphilippe. Alors on n'a peut-être pas le coureur capable de gagner le Tour de France, mais on a une belle génération actuellement.
Ah oui, ça c'est clair. On a des petits jeunes qui ont entre 22 et 26 ans et qui se retrouvent dans le Gotha mondial depuis le temps qu'on attendait ça, depuis le temps qu'on attendait de les citer parmi les favoris pour les monuments et de ne plus se satisfaire d'une troisième place sur Milan-San Remo. Je lisais les commentaires sur la troisième place de Julien Alaphilippe. Ça faisait longtemps qu'on attendait pourtant un podium ou une victoire qui arrivait l'an dernier avec Demar et maintenant on arrive à en être déçu. C'est dire le potentiel de ces gamins et à quel point ils sont soutenus. Et je voudrais rajouter à la liste que vous avez citée le petit David Gaudu de FDJ qui a seulement 20 ans. C'est le plus jeune néo-professionnel du peloton et qui tient tête là Christopher Froome et Contador sur le Tour de Catalogne actuellement. Donc, c'est assez impressionnant de voir que les Français ont... De toute façon, ça fait plusieurs années qu'on a les meilleurs juniors français et les meilleurs juniors et espoirs du monde entier qui dominent le classement UCI, pardon. Et c'est bien qu'enfin ça se concrétise au niveau professionnel.
Au niveau des sportifs rencontrés, Mathilde, les cyclistes sont pratiquement à chaque fois les plus dispos. Ça vient aussi de la spécificité de ce sport.
Ah oui, c'est sûr.
La proximité,
après,
ça c'est important.
C'est plus simple parce que le cyclisme est un sport qui se déroule en plein air, contrairement au rugby, au tennis ou au foot, où là c'est dans un stade ou sur un terrain où il y a des vestiaires, où il y a des salles réservées aux zones mixtes. Par exemple, le vélo, quand les coureurs arrivent, avant qu'ils rentrent dans leur bus, il y a quand même du chemin, ou quand c'est en montagne, ils se changent devant tout le monde ou près d'une voiture, donc forcément c'est beaucoup plus accessible. Et après, je pense que c'est dans les mentalités aussi. C'est selon les sports, on est bridé ou non, et on sait ce qu'on doit faire, comment est-ce qu'on doit réagir face aux journalistes. On doit aller les voir après être changé ou pas. Le vélo, c'est pas forcément ça. C'est on répond si on a envie, et puis souvent ils répondent. Donc c'est vrai que c'est assez pratique pour nous, on va dire.
Il y a des sports sur des grands événements plus durs que d'autres pour travailler avec des sportifs.
Plus dur
non.
que d'autres.
Par exemple, les tennisman, ils sont assez accessibles.
Non, mais... Pour pouvoir le dire, mais je pense que par exemple, dans un milieu comme le foot, oui, ça doit être très difficile parce que il y a tellement de choses en jeu que tout est contrôlé. Il doit y avoir beaucoup d'attachés de presse, de communication, de rendez-vous avant pour pouvoir avoir le joueur.
Et on vous le confirme, ça.
On contrôle forcément.
Ah oui, on vous le confirme, hein, bien que bon. Ça peut aussi parfois dépendre. Mais enfin, on vous le confirme d'une façon générale, c'est ça quand même. Ah ouais. Très bien. On va marquer un tout petit break, hein, une petite pause musicale et une petite page de pub. Vous restez avec nous et puis on vous reprend. On vous laisse souffler un peu du côté de la Bretagne, Mathilde. Ok ?
Pas de soucis.
Allez, on y va.
En centre-ville à Rambouillet, 95 rue du Général de Gaulle, votre traiteur traditionnel au carré d'or et son chef, un restaurateur de la région, vous propose ses entrées et ses plats garnis cuisinés à emporter à 9,60€ sur plats décorés et bouquetières de légumes et ses plats prêts à mettre au four à 12,50€ sur commande. Le carré d'or, c'est aussi son foie gras de canard maison, son saumon d'Écosse label rouge fumé, ses bouchées à la reine à l'ancienne, ses noix de Saint-Jacques au champagne et ses desserts maison. Alors, pour vos repas de famille, vos baptêmes, communions, fiançailles, anniversaires et repas de mariage, entre amis ou en entreprise, le Carré d'Or, 95 rue du Général de Gaulle à Rambouillet, 01 34 57 34 40 et sur www.carré-d'or-traiteur.fr. Fermez le lundi. Pour votre santé, bougez plus.
Vous vendez, vous louez, DPE Amiante Plomb Loire Carrez. Agenda Diagnostic, leader du marché, diagnostique vos maisons, appartements, immeubles, commerces et bureaux. Profitez de l'expérience du premier réseau de diagnostic immobilier au meilleur prix. Agenda Diagnostic Sud-Yvelines, 01 34 83 80 10. www.agendadiagnostic.fr.
C'est parti! La Bassienne de Menuiserie, votre spécialiste RGE en menuiserie sur mesure, en partenariat avec les menuiseries Jeannot, lance la fenêtre la plus performante du marché. Une fenêtre 100% innovante, alliant performance thermique et acoustique. 10 points de fermeture de base pour une sécurité maximum et un UW de 1. Pour ce lancement exclusif, bénéficiez de 20% de remise jusqu'au 8 avril 2017 pour le remplacement de vos fenêtres. Les devis sont toujours gratuits et le crédit d'impôt toujours d'actualité. Alors n'hésitez plus et contactez la Bassienne de Menuiserie au 01 34 85 87 32. À Bassienne de Menuiserie, votre spécialiste en menuiserie sur mesure, reconnu au Grenelle de l'environnement. Showroom au 27 rue de Chartres, au Perret en Yvelines. Voir conditions magasin.
Placer le mot ruelle, je voulais vous parler un peu d'elle. Je voulais écrire sur un bout de table, dans un salon de la rue des Arts, et déchirer ce bout de nappe sous le regard de bande à part, et en finir avec l'ambition, cracher bourré mes convictions. Et je voulais vous parler des femmes et de Godard, de leur parfum de 68 que l'on condamne. Mois d'octobre 61. Et je voulais vous parler des femmes et de Godard, de leur parfum de 68 que l'on condamne du mois d'octobre 61. Mais on ne fait pas les Amériques en écrivant ce genre de choses. Fallait choisir la chose publique, y a peu de public à la prose. Et entre nous, mon choix est fait. Et entre nous, mon choix est fait. Et jamais je ne choisirai entre la bannière et la rose. Et je voulais vous parler des femmes et de Godard, de leur parfum de 68 que l'on condamne du mois d'octobre 61. Et je voulais vous parler des femmes et de Godard, de leur parfum de 68 que l'on condamne du mois d'octobre 61. Je voulais vous parler de la misère. Je voulais vous parler de la folie, d'un traitement sécuritaire, de pardon et de l'oubli. Esclave et aliéné, de la cause à la déraison, attendant quelque chose qui ne produira pourtant jamais. Et je voulais vous parler des femmes et de Godard, de leur parfum de 68 que l'on condamne du mois d'octobre 61. Et je voulais vous parler des femmes et de Godard, de leur parfum de 68 que l'on condamne du mois d'octobre 61.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Oui, et cette émission, vous pourrez naturellement la réécouter dans le courant de la semaine en podcast, hein, comme toutes celles des semaines et des mois précédents. On retourne du côté de la Bretagne avec Mathilde. Mathilde, comment sont les rapports avec les journalistes terrain, que ce soit dans le rugby ou dans le vélo? Vous êtes en général bien accueillis, on s'occupe bien de vous?
Salut, on va dire.
Ah
très très cordiaux, très très gentils, mais ça reste quand même des milieux, quand vous êtes freelance comme moi, ça reste des milieux où il y a beaucoup de concurrence, et après le fait que je sois une femme dans le sport, ça, c'est pas tabou. Il y a de plus en plus de filles dans ce milieu-là, mais bon, ça reste quand même parfois compliqué, ça donne des situations parfois un peu compliquées, mais bon, globalement, on est quand même très bien accueillis, et on a des très bonnes relations avec nos collègues.
D'accord. Mathilde, on va passer aux chevaux. On va vous reprendre parce que, bizarrement, on a une réception qui est un peu moins bonne, assez paradoxalement. Donc, on va voir ça du côté de de notre technicien. Et puis, dès que ça sera donc résolu, on vous reprend. D'accord ? Ok ? Hein, parce que bizarrement, paradoxalement, on a une, c'est pas aussi limpide que tout à l'heure. C'est assez paradoxal. Enfin bon, voilà. Donc Boris, en attendant de retrouver Mathilde, et on s'en excuse auprès de nos amis auditeurs. Donc on a donné les dates de l'hippodrome de Rambouillet pour les courses. Il y aura pas cette année le trophée vert. Hein.
Oui, c'est un petit peu bizarre, mais à la fois c'est un peu logique. Il faut en donner un petit peu à tout le monde. Il y a énormément d'hippodromes en France, je crois qu'il y en a plus de pratiquement 300, et donc les trophées verts, ça s'exprime comme son nom l'indique sur des pistes en herbe, donc vertes. Donc c'est bien aussi de pouvoir un peu tourner les épreuves et de faire participer la France et la Navarre. Donc c'est un petit peu dans ce cadre-là, je pense qu'on a. C'est pas une sanction, c'est juste une redistribution des cartes au niveau du championnat de France sur herbe.
D'accord, ok. Donc bon, c'est pas tous les ans, hein, je pense. Donc une fois tous les deux ans, à peu près. Hein,
oui, a priori. Oui, y a pas. Je pense qu'il y a pas de règle. A priori, oui. Et puis de toute façon, vu les infrastructures sur Rambouillet, la qualité de la piste, il y a aucune raison que ça ne revienne pas l'année prochaine sur Rambouillet.
D'accord. Donc on va quand même rappeler que de grands drivers, hein, et des chevaux très connus se viennent chaque année sur Rambouillet quand même. Hein.
Ah bah oui. Alors tous les ans effectivement on a le plus grand driver, mais alors aujourd'hui à l'exception de Bazière, je vais dire, ils sont tous là. Hein, les Barrier, les Mathieu Abrivard, les Jean-Philippe Dubois, les Louis Baudron, les Franck Nivard, les Mathieu Mottier et j'en passe, et des meilleurs. Là franchement on est servi aujourd'hui pour des courses de réapparition. On va vraiment avoir un grand plaisir à avoir des bons chevaux puis des top drivers, donc c'est vraiment je dirais la meilleure occasion de redémarrer sur la piste de l'hippodrome de la Villeneuve.
Voilà, alors est-ce que Mathilde est au téléphone à nouveau? Non, alors on va la rappeler et puis on va continuer, on va écouter les pronostics de Boris donc pour cette première réunion de la saison.
Donc très important, ça démarre à 14h, c'est-à-dire que c'est pas l'ouverture de l'hippodrome, c'est la première course qui va se dérouler à 14h. La première course, on sera dans le prix de la compagnie du Paris Mutuel, à CPM, sur 2000 mètres. En tête du pronostic, le numéro 13, Espoir de Benoît. Espoir Benoît, avec ensuite le 11, le 4, le 6 et le 12. Dans la deuxième course, on sera dans le prix des bénévoles de l'hippodrome. Très important, les bénévoles. Hein. Sans eux, on pourrait pas voir ces belles courses. Ça sera une course aux montées, donc on oubliera le sulky. Et on laissera les drivers monter sur les chevaux. En tête de la deuxième, le numéro 13, Barouter Blond, qui sera monté par Fabien Jans. Avec ensuite le 17, le 16, le 9 et le 18. Ça nous amènera sur le coup de 15h à la troisième, le prix de la Forêt Verte, pour un prix de 12 000 euros sur 2800 mètres. En tête de ce pronostic, un extrême outsider, Chéri du Désert, le numéro 1, qui sera montré par Mathieu Monaco. Ensuite, le 4, le 13, le 4, le 7 et le 8. Donc je reprends, ce qui est un petit écho dans l'oreille. L'As, le 4, le 13, le 7 et le 8. Dans la quatrième course, le prix de la Forêt Verte, donc un dédoublement de groupe, ça sera le groupe B, il y a le groupe A, le groupe B. Donc toujours 12 000 euros sur 2800 mètres de la piste. En tête de ce pronostic, Citizen de Joude, il part juste au recul, il sera montré par Mathieu Mottier, donc le numéro 9, Citizen de Joude. Ensuite, le 12, le 13, le 14 et le 5. On passera ensuite aux alentours de 16h à la 5e, parce qu'il y a énormément de courses sur l'hippodrome aujourd'hui. Le groupe A dans le prix des Bruyères. En tête de ce pronostic, le 8, Doris Well. Donc le 8, Doris Well dans la 5e, avec le 13, le 15, le 6, hélas. La 6e course, le prix des Bruyères, le groupe B. Donc on dédouble pour des dés toujours. Avec en tête de ce pronostic de la 6e, Diane Deschamps, le numéro 2. ensuite le 9, le 12, le 11 et le 15. À 17h, très important, le prix Radio Vieille Église, dont on en a parlé tout à l'heure, aux alentours de 17h, en espérant qu'il n'y aura pas trop de retard. En tête de ce pronostic qui sera monté par Benjamin Le Rebourg, le numéro 8, Beryl de Bercy, il est bien engagé, il part devant. Il est déféré des 4 sur 2008, ça devrait pas être trop mal. Ensuite, le 11, le 13, le 16 et le 15, dans la course de RVE à la 7e, qui sera à 17h. Ensuite, 8e course, 17h30, le prix de la Société des courses de Chartres, très belle course, 2800 mètres, 25 000 euros d'allocation, la plus belle course du jour. En tête de ce pronostic, le 7, Aigle du Port, je l'ai vu courir la semaine dernière à Durtal, malheureusement, il a pas couru longtemps puisqu'il a eu il a été accidenté, mais a priori, s'il réengage aujourd'hui, c'est que c'est une première chance. Il part devant, déféré des 4, je crois que ça sera mon cheval du jour, dans la 8e, le numéro 7, Aigle du Port. Ensuite, donc, après le 7, l'As, le 15, le 12 et le 10. Et on terminera, une fois n'est pas coutume, dans la 9e aux alentours 18h, si tout s'est bien passé, par le prix de la Clairière, avec en tête de cette course d'amateur, toujours très difficile une course d'amateur de pronostiquer. En tête du pronostic, le 3, Aramis Green, avec ensuite le 14, le 11, le 16 et le 8, voilà. Et a priori, la fin des opérations aux alentours 18h15, 18h30.
D'accord.
Ça s'est bien passé.
Et puis naturellement, on sera à l'hippodrome cet après-midi, hein, Boris. Et
oui.
On fera un faux petit direct qu'on vous rediffusera dans les prochaines semaines, comme si pour connaître le vainqueur donc de ce prix RVE 2017. On repart du côté de la Bretagne avec Mathilde Dazou. Mathilde.
Oui.
Mathilde.
Bonjour.
Oui. Alors j'entends faiblement maintenant. Voilà. Est-ce que c'est bon là?
Oui, je vous entends.
Ah bah voilà, c'est parfait. Tout fonctionne bien. Bah vous voyez que ça va du côté de la technique. Bon alors, c'est une question qu'on avait une réponse qu'on n'avait pas très bien entendue. Donc, est-ce que les rapports sont bons pour vous avec les journalistes avec lesquels vous travaillez, que ce soit sur le vélo, sur le rugby ou même parfois sur d'autres événements comme Roland Garros?
Globalement, oui, on est très bien accueillis, on s'entend bien. Après, de toute façon, dès qu'on travaille bien ou qu'on se montre consensueux dans notre travail, il n'y a pas de raison que les relations ne soient pas au moins cordiales. Après, c'est vrai que ça reste quand même un milieu où il y a beaucoup de concurrence et quand on est une fille, il faut quand même un petit peu bagarrer pour se faire accepter, mais ça va.
Ouais, c'est bien ça la difficulté, parce que on se rappelle il y a une vingtaine d'années, hein, il y avait peu de filles dans le journalisme sportif, tout du moins sur les sports traditionnels, classiques, hein, comme le foot, comme le rugby. Aujourd'hui, on en voit assez régulièrement. Un peu moins sur le vélo, quand même.
Oui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de journalistes femmes dans le milieu du sport, et c'est très bien. Dans le vélo, ça va pas tarder à venir. On n'est pas beaucoup pour l'instant. On doit être 3 en France. Il y a Marion Rousse, il y a Claire Bricogne de l'équipe 21, et puis il y a moi. Mais petit à petit, ça va venir. Et je pense que de toute façon, il faut des gens pour montrer l'exemple. Et Marion Rousse, par exemple, est le parfait exemple à suivre.
Oui, Marion Roux, c'est un bon qui court, hein, mais qui va rejoindre comme consultante une équipe que vous connaissez bien, celle de France Télévisions.
C'est ça, je suis ravie de ne plus être la seule fille dans le vélo, donc c'est très bien.
Très bonne nouvelle. Et puis avec aussi une toute nouvelle équipe de commentateurs.
Oui, c'est ça, qui va être à l'œuvre dès Paris-Roubaix. Mmh. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et puis c'est bien.
Oui, c'est vrai qu'il y a un autre regard, parce qu'on voit aujourd'hui des femmes, que ce soit dans le foot ou dans le rugby, qui sont très spécialistes. Hein.
Ah oui, parce que des fois, elles connaissent même mieux la discipline que certaines personnes qui se revendiquent spécialistes depuis des années. Et ce sont des filles qui sont là parce qu'elles méritent leur place, pas parce qu'elles sont des femmes. Et c'est une différence qui est importante, je pense. Oui, c'est agréable aussi de voir qu'enfin on tend vers une égalité, on va dire, et vers une crédibilité égale.
Oui, puis même le regard des sportifs est différent. Aujourd'hui, on prend un peu plus au sérieux, quoi.
Ah bah oui, c'est sûr. Voire, on fait même plus confiance, je pense. Moi, je vois avec certains coureurs ou sportifs qui me racontent des choses que je ne devrais pas savoir, mais parce qu'ils me font confiance et parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir confiance en moi et ça m'aide dans le travail. Et je pense qu'ils le confient parce que je suis une fille et parce que on suit un peu les clichés comme quoi on peut être plus psychologue que les hommes, par exemple, mais ce sont des choses, des clichés qui peuvent nous aider. Il faut s'en servir comme des armes, par exemple.
D'accord. Bon, certains vous laissent pas leur numéro de téléphone, des fois.
Bah, je les prends, ces numéros, ouais, mais pour faire des interviews après. Donc, il faut toujours faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'amalgame, mais bon, globalement, ça va, ils comprennent vite, de toute façon, que je ne suis pas le genre de groupie auquel ils ont affaire d'habitude. Donc, quand on est journaliste fille, on sait très vite mettre les limites et il n'y a pas de souci pour ça.
Oui, alors vous parlez plusieurs langues, hein, Mathilde. Ça aussi, maintenant, c'est important quand on est journaliste.
Oui, tout à fait. Je parle l'anglais et l'espagnol. Bah, c'est vrai que c'est important de maîtriser au moins une langue en plus du français, parce que quand on se retrouve face à un sportif, déjà que s'il nous connaît pas, il va dire moins de choses. Et si en plus on le force à parler une langue qu'il ne maîtrise pas vraiment, on le bloque, quoi. Alors que si on parle sa langue maternelle ou au moins une langue qu'il maîtrise, donc que ce soit l'anglais ou l'espagnol, il y a de très fortes chances que le sportif qui est en face de nous connaisse une de ces deux langues. Bah, il va nous dire plus de choses, il sera peut-être moins timide et ce sera plus intéressant pour nous, tout simplement.
Sur les jeux, ça s'est passé comment? Vous étiez principalement sur le vélo ou vous avez eu l'occasion d'être multisport? Ce qui est le but des jeux,
quand même. C'était comme dans un rêve. Moi, c'était le rêve de ma vie de faire les Jeux Olympiques.
Bah oui. En plus, au Brésil.
J'ai eu beaucoup de chance de le faire. Alors, les deux premiers jours, je les ai faits pour la télé, à l'antenne, pour la zone mixte du rugby. Donc, c'était très drôle. Et après, j'ai eu la chance sur le reste des jeux, en fait, d'avoir totalement carte blanche. Donc d'aller là où je voulais et de faire ce que je voulais. Donc c'est une chance énorme, j'en ai conscience, sur des Jeux Olympiques. Donc tous les matins, j'allais voir mon rédacteur en chef et je lui disais ce que j'allais faire en lui donnant un agenda précis des épreuves que j'allais voir. Mais il m'est arrivé de faire jusqu'à 4 ou 5 disciplines par jour aux Jeux de Rio, quoi.
Oui.
Donc c'est une énorme chance. J'ai conscience que si jamais je suis amenée à refaire une édition des Jeux Olympiques, j'aurais peut-être pas autant la même liberté, mais mais c'est vrai que c'était incroyable.
Oui, bon, il y aura Paris 2024, hein, bientôt.
C'est ça, j'espère.
On va les avoir. Oui, hein. On va les avoir. Hein. Bon, alors, il n'y a pas de plan de carrière quand on débute comme vous, mais qu'est-ce que vous aimeriez faire? Peut-être un peu plus d'antenne maintenant?
Oui, c'est ça. 2017, je pense que je vais un peu mettre... être plus tranquille, parce que c'est vrai que 2016, entre Roland-Garros, le Tour, les Jeux Olympiques, Tokyo, Dubaï et tous les autres voyages, c'est vrai que ça a été un peu dur, on va dire, de récupérer de tout ça.
Oh, faut pas se plaindre.
Mais
quand même.
Là, 2017, j'ai envie de me concentrer aussi un peu sur ma famille, sur mes amis qui ont besoin de moi également et qui ont été là pour moi. Mais après, c'est vrai qu'à long terme... Pourquoi pas faire de l'antenne? C'est vrai, vu que je suis un peu une hyperactive et que je m'ennuie très facilement, il faut que je me trouve toujours des challenges et faire de l'antenne pour en faire partie. Ouais.
Et un jour, vous envisagez peut-être, j'allais dire, d'aller voir ailleurs, si vous avez des propositions de d'autres chaînes, je sais pas moi, l'équipe 21 par exemple, ou même d'autres chaînes, ça serait envisageable?
Ah bah oui,
vous êtes ouverte à tout?
Je suis ouverte à tout, on va dire, tous les projets. Je fonctionne beaucoup au feeling, en fait, et... si un projet me plaît, je fonce. C'est par exemple ce qui m'a poussée là à devenir ambassadrice pour une marque, alors que c'est pas du tout mon truc. Mais le fait de parler, d'être au contact des personnes qui poussaient le projet, d'entendre leurs arguments, bah je me suis dit, bah pourquoi pas. Et ça peut être pareil pour d'autres chaînes ou pour d'autres médias. C'est pourquoi pas.
Et toujours dans le domaine du sport.
Oui, toujours dans le sport, par contre, ça c'est obligatoire.
Oui, oui. Vous n'allez pas faire du spectacle ou de la politique? Allô?
J'ai pas entendu, pardon?
Vous n'allez pas faire du spectacle ou de la politique?
Ah non, du tout.
Oui.
Ça m'intéresse, mais pour ma vie personnelle, mais après dans ma vie professionnelle, il faut, je pense qu'il faut quelque chose qui nous tienne éveillés et qui nous donne envie de toujours progresser, et moi c'est le cas dans le sport.
Oui, vous avez raison en tout cas. Hein. C'est un domaine où de toute façon on est en perpétuelle activité. Il y a tous les ans des grands événements qui reviennent et puis voilà. Puis on a encore un regard d'enfant à travers tous ces grands événements.
Oui, exactement. Et c'est important de le garder, je pense, ce regard d'enfant. Ça nous permet de toujours nous réinventer dans le travail et de nous pousser à continuer.
et l'importance de la télé aujourd'hui sur tous les grands événements sportifs, hein, régulièrement, naturellement, il y a ces éternels droits télé. C'est indissociable aujourd'hui le sport professionnel avec la télé.
Oui, parce qu'on le voit de toute façon, les sports les plus influents dans ce monde sont les sports qui sont les plus télévisés, tout simplement, que ce soit le foot, le rugby maintenant, le vélo, le tennis, c'est vrai que bon, les matchs sont longs, mais c'est quand même très spectaculaire, donc ça marche bien aussi. On ne peut pas survivre maintenant sans une bonne couverture médiatique, et cela passe forcément par la télévision, parce que pour l'instant, c'est toujours le premier média qui parle aux gens, de toute façon. Il y a la radio, le web, c'est vrai, la presse écrite, la presse régionale le lendemain, mais ça reste pour l'instant la télé qui est le curseur, entre guillemets, pour définir si un sport est médiatisé ou non, quoi.
Et puis la chance aussi de France Télévisions, c'est d'avoir toutes les télés locales aussi, hein, qui redéploient sur le plan régional local. Ça aussi, c'est important, je pense, à certains sports comme le rugby, par exemple.
Ah bah oui, exactement, d'avoir... On a la chance d'avoir une fourmilière d'antennes régionales qui font un excellent boulot. Et c'est vrai que c'est une chance pour nous de pouvoir tout couvrir ainsi. Et même pour le vélo, quand je vois ce que fait France 3 Bretagne, par exemple, sur les courses ici, c'est magnifique, tout simplement. Et ce sont ces antennes régionales qui contribuent encore au bien-être de ces disciplines et qui contribuent à la réussite de ces clubs et qui font qu'un sport ne meurt pas, tout simplement.
Très bien Mathilde, en tout cas merci hein, de nous avoir accordé pratiquement une belle heure d'interview. Hein. Vous voyez, on a eu des choses très intéressantes à dire, qu'on a partagé avec Boris, donc qui nous a donné les pronos pour les courses à l'hippodrome de Rambouillet aujourd'hui. Ouais. Boris, un petit mot de fin concernant Mathilde.
Bah, c'est exceptionnel de voir quelqu'un de jeune, motivé, et je dirais, voilà, c'est l'avenir de la télé, c'est l'avenir des médias, et je trouve ça très très neuf, et ça redonne un second souffle à tout ce milieu qui parfois est resté trop longtemps un peu statique, ne serait-ce que sur certaines émissions à la télé. Je trouve qu'il y a une mouvance qui commence à se faire, et puis c'est bien. La jeunesse, c'est l'avenir, et quand on voit de quelle façon cette jeune femme pose sa voix, et voilà, on sait que l'avenir est tout tracé pour elle, donc franchement longue vie à elle à travers les médias, puis on manquera pas de la suivre à travers ses apparitions écrites ou télévisuelles. Ça sera un grand plaisir pour nous, en tout cas.
Voilà Mathilde, c'est un beau plaidoyer.
Merci beaucoup.
Hein, voilà, et un petit mot peut-être à Stade 2 un jour, il y a Clémentine Sarla, il y a Céline Giraud, pourquoi pas vous?
Pourquoi pas. Rendez-vous dans 10 ans et on verra.
Ouais, hein. Bon, en tout cas, merci. Puis nous, on aura l'occasion de se recroiser très prochainement, probablement sur le Tour de France.
Avec grand plaisir.
Hein. Et puis merci. Puis n'oubliez pas que cette émission, elle sera réécoutable en podcast dans le courant de la semaine. Hein. Mathilde, vous pourrez la mettre sur vos réseaux sociaux.
Ça marche, pas de soucis.
Voilà. Merci en tout cas pour votre immense disponibilité. À très bientôt. Merci.
Merci à vous. Au revoir.
Voilà, allez, la pub, la musique, et ensuite on repartira pour finir sur les courses hippiques.
C'est parti, la Bassienne de Menuiserie, votre spécialiste RGE en menuiserie sur mesure, en partenariat avec les menuiseries Jeannot, lance la fenêtre la plus performante du marché. Une fenêtre 100% innovante, alliant performance thermique et acoustique, 10 points de fermeture de base pour une sécurité maximum et un UW de 1. Pour ce lancement exclusif, bénéficiez de 20% de remise jusqu'au 8 avril 2017 pour le remplacement de vos fenêtres. Les devis sont toujours gratuits et le crédit d'impôt toujours d'actualité. Alors n'hésitez plus et contactez la Bassienne de Menuiserie au 01 34 85 87 32. À Bassienne de Menuiserie, votre spécialiste en menuiserie sur mesure, reconnu au Grenelle de l'environnement. Showroom au 27 rue de Chartres, opéré en Yvelines. Voir conditions magasin.
Électriciens, collectivités, entreprises, commerçants, il y a du nouveau à Rambouillet pour toutes vos questions d'éclairage. LED Pro France, c'est un showroom de plusieurs mètres carrés et un magasin proposant une très large gamme d'ampoules, de luminaires, projecteurs, bandeaux LED à des prix imbattables. LED Pro France, votre partenaire lumière, vous conseille et vous accompagne dans tous vos projets neufs et de rénovation d'éclairage. Alors n'hésitez plus, rendez-vous dès aujourd'hui voir des éclairages LED de qualité professionnelle à des prix usine. LED Pro France, magasin et showroom, ZA du Bel Air, 8 rue Pierre Métairie à Rambouillet. Pouillet. Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Téléphone 01 30 88 97 54. 01 30 88 97 54 ou sur notre site internet letpro-france.com. Vous voulez devenir propriétaire dans un cadre rural avec une qualité de vie exceptionnelle, avec des équipements adaptés, une école, niveau maternel et primaire, des équipements sportifs, une médiathèque, une salle polyvalente et des associations dynamiques? Pont-Évrard, à 3 km de Saint-Arnaud en Yvelines, est un village dynamique, résidentiel, adapté pour accueillir votre famille. Il est desservi par des lignes de bus régulières et situé à proximité d'une gare routière vers RER et TGV et de l'autoroute A10 à 11. Alors découvrez le lotissement Lorée du Bois en lisière de forêt à Pont-Évrard. Et il est éligible au prêt à taux zéro. Contactez la mairie, 5 places de la mairie, au 01 30 41 22 13. 01 30 41 22 13. Changez de vie et devenez Évry-Pontin.
Mon regard qui se perd dans la brume, un naufragé volontaire. Sous l'écume, j'ai traversé toutes mes nuits. Seul ton sourire au fond de l'âme. La mémoire à la mer. Je dérive comme un enfant sans repère. Je m'enivre à deviner ton étoile au ciel. Ton sourire au bord des larmes. C'est ma peau. Le regard vers la terre. Je veux vivre à l'horizon qui s'éclaire. Je vais suivre enfin le courant des idées neuves que les vanités condamnent. Sur ma peau, j'ai signé mes promesses. Gravé
région avec RVE.
Voilà, puis on va remercier encore notre consoeur Mathilde Dajou d'avoir été notre invitée principale par téléphone ce matin. Et puis on va quand même aussi saluer l'amicale des pêcheurs de Rambouillet qui organise aujourd'hui à l'étang de la Tour les 6 heures de Rambouillet. Ça a commencé à 7h30 et ça va durer donc jusqu'à 17h30. C'est un marathon de pêche à l'américaine organisé par l'amicale des pêcheurs. Et puis n'oubliez pas, ça sera aussi un jour de course à l'hippodrome de Rambouillet. Là, Rambouillet Sport, ça sera le 23 avril dans le parc du château. Il y aura des courses de 10-20 km, des marches nordiques de 10 km ainsi qu'une randonnée de 10 km et des courses pour enfants de 1 km et 2 km 600. Les inscriptions sont à faire sur le site de Rambouillet Sport. Et puis Boris, on l'a dit, donc la rentrée des courses aujourd'hui à l'hippodrome de Rambouillet avec donc le prix RVE qui est, j'allais dire, une des courses majeures de cette réunion de rentrée.
Oui, très important, ça démarre la première à 14h, hein, donc on ouvre l'hippodrome à 13h30, mais 14h c'est parti.
D'accord.
Et nous, en ce qui nous concerne, bien, on sera sensibilisé plus particulièrement sous le coup de 17h, mmh. avec le prix de Radio Vieille Église, donc c'est extra.
On fera un faux direct, hein, qu'on vous présentera dans les conditions du direct, dans une émission dans 15 jours, voilà.
Voilà.
Très brièvement, on va rappeler donc les pronos pour cette course, donc oui, du prix RVE.
Voilà, donc la 7e à 17h, en tête du pronostic, le numéro 8, Béryl de Bercy, sera déféré des 4 avec Benjamin mmh. Le Rebourg, un cheval de Cédric Mégissier. Ensuite, le 11, Boss du Coquelet, en 3e position, Brabus Bluecoeur, le numéro 9. En 4e position, Betty Castellet, numéro 16. Et pour terminer, le coup de 5, le 15, Bacchus Della. Donc le cheval à mettre en avant dans cette 7e course, Béryl de Bercy, numéro 8.
Merci Boris de m'avoir accompagné durant cette émission. Rendez-vous dimanche prochain pour Tribune Foot. Merci à Victor d'avoir été une nouvelle fois brillamment ce matin aux manettes. Et puis rendez-vous la semaine prochaine. Hein. C'est Tribune Foot, 10h-11h. On aura beaucoup, beaucoup de choses à vous raconter. Salut, bon dimanche.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.